Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Just closing up, fellas.
Coffee.
I'm sorry, we're closed.
Oh, I know that. I do know that.
Ah! Shut up! We don't carry much cash here.
Don't move.
Door!
Toi, le héros?
Non, je crois pas, monsieur. J'ai fait ce que...
Ouais, t'es le grand héros. T'as réglé leur compte à ces deux espèces de meurtriers.
Écoutez, j'ai plus envie de parler de ça, monsieur.
Ah.
On essaie de revenir à la normale. Est-ce que je vous offre à tous un bon petit café?
D'accord, sers-moi un bon café. Moi, je l'aime noir. Joey.
Qui est Joey?
C'est toi.
Je me nomme Tom, monsieur.
Ouais, bien entendu. Délicieux, ce café.
Dites-moi, est-ce qu'on se connaît tous les deux?
C'est à toi de le dire.
Le réalisateur David Cronenberg est un auteur qui a construit sa notoriété sur ses films gore, Chromosome 3, Dead Zone ou La Mouche, films qui le classent parmi les maîtres de l'horreur. À chaque sortie, l'événement est là et parfois le scandale, comme avec Crash à Cannes en 1996 où il gagne le prix spécial du jury.
Sortez de ma propriété.
On va s'en aller, Joey. On veut seulement que tu viennes faire un tour. On t'emmène à Philly, voir de vieux amis.
Je vous ai dit que j'ai jamais mis les pieds à Philadelphie.
Tu t'es presque persuadé de ces foutaises, n'est-ce pas? Tu sais, tu te donnes tant de mal pour te faire passer pour un autre que ça fait réellement peine à voir. Charlie.
Regardez. On a pris un gros poisson. Qu'en dites-vous?
Jack!
Non,
si vous êtes pas juste, je me paierai!
Lydie!
Jack!
Non! Non!
Tu vas te tirer!
Lâche-moi, fils de pute!
Qu'est-ce que t'as dit?
Adapté d'un roman graphique de John Wagner, A History of Violence réunit le savoir-faire de Cronenberg au talent et à l'implication sans faille de Viggo Mortensen.
Du Cronenberg un peu surprenant, moins gore et moins organique qu'à l'habitude, même si certaines scènes sont peu ragoûtantes et ne conviendront pas à tous les spectateurs. Mais à l'arrivée, on se retrouve avec un très bon polar.
Comment as-tu pu rater un truc pareil? Comment as-tu pu rater un truc pareil?
Un homme ou une femme peuvent-ils soudainement commettre un crime après une vie vertueuse? Ou bien le mal se répand-il par contagion, de génération en génération, de corps en corps? David Cronenberg n'hésite pas à filmer la violence. Et plus que ça, il l'interroge. Il la met en scène non pas pour l'esthétiser, mais pour la questionner, quitte à nous faire vomir de dégoût. Derrière les images sublimes de A History of Violence et des Promesses de l'ombre, deux films sortis en 2005 et 2007, une question est soulevée. Qu'est-ce qu'un meurtre ?
Je crois qu'on perd facilement de vue ce qu'est réellement un meurtre. On lit des statistiques sur les meurtres commis à travers le monde, mais ça reste des statistiques. Les journaux nous donnent des chiffres des morts en Irak, 25, 100, 200 personnes, mais derrière ces chiffres, la réalité, c'est un corps. La violence, c'est la destruction d'un corps humain, un corps absolument unique, un seul et unique corps.
C'est un des films qui m'a le plus touché, donc je suis toujours parti d'une émotion. Je trouve que le cinéma, ça donne pas simplement des idées, ça donne des idées associées à des perceptions, à des émotions. Et History of Violence, pour moi, c'est à la fois un grand film d'amour, c'est un très beau film sur la famille, c'est un film exceptionnel sur la violence, et j'ai l'impression que, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de David Cronenberg. C'est vraiment le film où il y a à la fois son amour des films de genre, parce qu'il y a différents genres qui se croisent, et tout ça... traité au niveau le plus intime et en même temps au niveau le plus épique. C'est un homme qui doit quitter sa famille pour la retrouver et la trajectoire est extraordinaire.
Thank you. Sarah, honey, what's wrong? Huh? What is it, sweetie?
Hmm? Daddy.
Yeah?
Daddy.
Daddy's here. Daddy's here.
There were monsters.
No, sweetie, there's no such thing as monsters. You were just having a bad dream.
Qu'est-ce qu'il y a, papa?
Rien, mon fils. Sarah a fait un cauchemar.
J'ai vu des monstres, Jack.
Oh, des monstres? Quel genre?
Je sais pas, ils sont sortis de mon placard et ils sont restés dans l'ombre.
Mmh, c'est des monstres d'ombre. Ils sont très vilains, c'est vrai, mais ils peuvent rien te faire. La lumière, ça leur fait trop peur. Il faut la laisser allumer.
Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Ça va pas?
Si, ça va.
Sarah a fait un cauchemar avec des monstres. Mmh. Et je lui expliquais que les monstres n'existent pas.
Non. Oh.
Je vais laisser la lumière allumée, on ne sait jamais.
Oui, c'est ça, c'est la meilleure solution, Trésor.
Toute la question est de savoir si les monstres n'existent vraiment pas, Olivier Pourriol, parce que la scène qui précède a donné à voir un monstre quand même.
Dans la scène qui précède, on voit des monstres qui existent et qui sont qui violentent les gens au passage. On a une espèce de travelling, on est dans une voiture décapotable et on sent qu'ils tuent comme ils respirent. Ce sont des gens qui tuent et qui changent d'état, qui sont
en fait c'est pas des monstres, c'est des êtres humains mais qui tuent comme
c'est des êtres humains qui tuent, c'est-à-dire c'est des vrais monstres, c'est des gens qui détruisent des corps et qui tuent des enfants. Donc dans la scène précédente, on voit quelqu'un qui fait chute à une petite fille et qu'il assassine. Et le cri, c'est le cri d'une petite fille ailleurs, comme s'il y avait par ailleurs un tissu qui rejoignait ces deux scènes, ces deux petites filles, comme s'il y avait l'âme d'une enfant qui était violentée, qui réveillait une autre petite fille. Et on comprend bien évidemment que les monstres existent et que la famille est là pour faire exister une fiction, c'est celle du Père Noël, c'est celle d'une fiction protectrice. Quand le père dit à la mère, j'expliquais à Sarah que les monstres n'existaient pas, clin d'œil, évidemment que les monstres existent, mais c'est trop petit pour lui dire. Et en même temps, ce qu'on entend avec le grand frère qui dit « ce sont des monstres d'ombre », le grand frère gentil. Alors c'est vraiment une famille de fiction. C'est le père qui se lève en premier quand la petite fille crie. Il a une douceur extraordinaire.
C'est Viggo Mortensen.
C'est Viggo Mortensen, donc c'est irrésistible. Ensuite, il y a le grand frère qui arrive et qui lui aussi est doux, donc c'est encore une famille de fiction.
Lui dire quel grand frère se lève
quel grand frère ferait ça en rassurant sa petite sœur. Donc les garçons sont féminisés, le père est féminin, la mère arrive en dernier. Bon, et il y a une espèce de cellule familiale qui est d'accord pour faire exister une bulle de mensonges, mais d'un mensonge très doux pour cette petite fille, en disant les monstres n'existent pas. En même temps, il y a une définition de ce qu'est le cinéma. Le grand frère qui dit les monstres d'ombre, donc c'est-à-dire que si c'est la nuit, on est du côté de l'imagination, on peut tout imaginer. Du moment qu'il y a la lumière, on remplace l'imagination par des images. Et donc, si on laisse la lumière allumée, donc si on continue à regarder le film, on va voir normalement que les monstres n'existent pas. Donc cette scène même est censée nous rassurer, parce que ça nous emmène à un lieu d'enfance où on a tous vécu les monstres d'ombre. Et le cinéma, c'est sur un fil. Et ça annonce le film suivant, Les Promesses de l'ombre. Bon, c'est le titre français, mais il y a quand même des monstres d'ombre qui existent, ils existent au cinéma.
Tom Stoll n'est pas celui qu'on croyait et qu'il a un passé de meurtrier. C'est ça en fait l'histoire du film.
Oui, c'est exactement ça. Et donc, c'est une famille d'apparence, c'est-à-dire que la fiction qui est autour de la petite fille, c'est une fiction qui est généralisable. Toute cette famille vit sur une fiction qui est un mensonge, c'est-à-dire que le père de cette famille, qui est un être doux, féminin, un père moderne, qui se fait conduire par sa femme, qui fait faire les devoirs à ses enfants, vraiment un père féminisé, idéal, on s'aperçoit qu'en fait, il vient d'un monde ultra masculin, ultra violent, et faudra qu'on revienne sur cette question d'ailleurs de l'association entre la violence et la masculinité, qui traverse les deux films. Il y a une certaine virilité qui fabrique forcément de la violence. Et cet homme qui a essayé de changer, qui a voulu quitter ce monde de frères violents, ce monde de la tragédie antique où on se doit de répondre à une violence par une violence supérieure, il a essayé d'éteindre ce cycle. Et au fond, c'est une approche chrétienne, hein, de vouloir répondre à la violence par autre chose. Soudain, il est rattrapé par une forme d'inconscient ou alors une forme presque grecque. Il y a un texte de Simone Veil que j'adore qui s'appelle l'Iliade ou le poème de la force, où elle dit que la violence, c'est pas quelque chose qui naît à l'intérieur d'un individu, c'est quelque chose qui traverse les êtres et qui traverse aussi bien le bourreau que la victime et qui se pose sur eux et ils n'ont pas le choix. Donc dans cette histoire de la violence, on voit aussi que la violence, indépendamment de la volonté individuelle, va posséder les individus et les traverser. Bien qu'en tuant deux personnes, d'abord il va détruire sa vie, évidemment, mais il se propose comme exemple de violence généralisable, alors que lui a voulu se refaire en devenant anonyme et en se singularisant dans une famille particulière avec juste quelques êtres autour de lui. Et ça, c'est devenu impossible dans ce monde.
D'autant que l'ironie est que si les Américains le tiennent pour un héros, ils ne savent pas alors qu'ils sont en train d'exhiber le fait que le mal vient de l'intérieur, parce qu'en fait c'est un assassin qu'ils tiennent pour héros.
Et oui, et dans tous les grands films qui traitent de la violence, on voit qu'il y a une violence qui est déjà là, qui est sous terre quelque part, qui est implicite, qui est déjà présente. Et puis bon, voilà, les États-Unis, on sait bien, c'est construit sur le meurtre des Indiens, donc on sent bien que la violence n'est pas très loin, même quand il y a tout l'artifice de la gentille famille, de la gentille maison, ça reste tout de même un enfer, quoi. C'est un enfer pavillonnaire.
I'm telling you, those men were going to kill us. They were going to kill us. And if it weren't for Tom, he's a hero.
He's in conjunction with several murders in those states. Now, Tom Stahl is a family man with long-standing ties to this community.
Tom Stahl was just another hard-working small business owner and operator in Millbrook, Indiana. But not...
One of the guys had a gun to my head, and Tom, he was amazing.
T'en as pas marre qu'on parle de moi sur toutes les chaînes?
Bah, en fait, j'aime bien. Bah, regarde, il y a ta photo dans le journal.
Oh, c'est pas
attention.
Merci.
Est-ce que j'ai le droit de me lever?
Oui, oui.
Du courage.
Ça va.
Ouais,
bravo, Tommy.
Bravo, bravo. Bravo.
Vous avez bien fait, bravo.
Ma chérie.
Oh, ils sont gentils. Nous vous remercions d'être venus à l'hôpital.
Félicitations.
Bravo.
Je suis à Millbrook, dans l'Indiana, devant la maison de notre héros Tom Stall, qui arrive tout juste de l'hôpital avec sa famille. Monsieur Stall, Jenny Wyatt de WRPK, bonsoir. J'ai une question à vous poser. Comment on se sent quand on voit les armes de ces tueurs fous braqués sur soi?
Mon sang?
Oui.
Pas très bien. Pas très bien.
Est-ce que la réaction que vous avez eue vous a surpris vous-même?
Ce que j'ai fait... Enfin, tout le monde aurait fait ça.
Le héros national aux États-Unis, bizarrement, il est toujours local. C'est-à-dire, c'est le héros d'une communauté et ça vient aussi des films Frank Capra, La vie est belle. On voit que le héros américain, c'est celui qui est exemplaire dans la communauté. C'est ce qu'on appelle un rôle modèle, quoi. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence pas par utiliser une arme à feu. Il utilise l'arme de celui qui tient un diner, c'est-à-dire il utilise la cafetière. Et après, l'arme à feu, elle est là, elle se présente. Et comme c'est une situation de vie ou de mort, on se dit qu'il prend les moyens du bord. Donc, à aucun moment, on ne peut soupçonner que cet homme a un passé d'assassin. On se dit juste que c'est un homme.
Il est très fort, quand même.
Il est très fort, mais voilà, c'est tourné un peu comme dans Impitoyable. Je trouve cette scène où on voit que c'est que la vraie violence, c'est un problème de rapport de vitesse. Et c'est pas celui qui est le plus rapide, c'est celui qui est le plus tranquille, finalement, qui l'emporte. Donc, lui fait ça aussi tranquillement que servir un café. Mais en même temps, il a l'air dépassé par ce qu'il fait. On voit qu'il ne cherche pas la notoriété. Et c'est là où la machine se grippe. Et c'est une machine typiquement américaine. C'est que l'expansion de cette image au niveau national va le mettre, lui, en danger. Et on se comprend pour dire de la modestie et en réalité une prudence d'ancien criminel.
It was an American story, and it came generated out of America. So even though it was shot totally in Canada, and in fact, I've never shot any film in America ever. Even though many of my stories, like The Dead Zone, for example, Cosmopolis, they're set in America, but they were shot in Canada. Yeah, I mean, and of course, beyond America, there's a kind of archetypal feel to that story. It's almost Ulysses, you know. I mean, it's got its own odyssey. It could be a Greek tragedy in a way, and in a way that's you. And this is well known, of course, in art. To be universal, you must be specific. You have to set your story, if it's a story. Of course, it doesn't have to be. It could be an image, but it has to be it will always be in a particular context. You can't make something that's universal directly. You have to do it through specific things, but that has resonance for people wherever they are in the world, and you hope that, you know, you hope for that.
De schizophrénie ou quoi? Tu es tout blanc et à la minute d'après, tu es tout noir.
Je croyais ne jamais revoir Joey Cusack.
Ah oui, Joey! Où il était, caché ou mort?
Je sais pas. Je croyais avoir tué Joey Cusack. Je suis parti dans le désert et je l'ai tué.
Oh mon Dieu!
Ça m'a pris 3 ans pour devenir Tom Stall. J'ai fou que je te dise quelque chose. Ma seconde vie a commencé quand nous nous sommes rencontrés. Avant, je n'étais rien.
Je n'en crois pas un mot.
Je ne crois plus à rien. Je n'arrive surtout pas à croire qu'un truc pareil puisse m'arriver à moi.
Tu n'as pas grandi à Portland? Tu ne parlais jamais de tes parents adoptifs parce que tu n'as pas été adopté? Et le nom que tu portes dans ta chien, c'est aussi bien, c'est pas vrai. Jack s'appelle Stoll. Sarah, tu y as pensé? Stoll! Tom Stoll! C'est un nom inventé de toutes pièces. D'où est-ce que ça vient? Dis-le-moi.
Il était disponible.
Ouais. J'étais disponible, moi aussi.
L'événement de la semaine, c'est bien sûr la sortie de l'excellent History of Violence, film de la Renaissance pour un David Cronenberg piégé depuis quelques années dans une autosatisfaction arrogante, qui troque enfin sa veste d'intello du dimanche, caressant dans le sens du poil l'intelligentsia bien pensante, pour celle d'artisan d'un cinéma bis transgressif qui autrefois lui avait valu notre admiration sans borne. Comme quoi, les miracles, ça existe.
Action!
S'il y en a un que j'attendais au tournant à chacun de ses films depuis 6 ans, c'est bien le père Cronenberg, cinéaste brillant qui nous a offert les œuvres parmi les plus visionnaires et les plus subversives des années 80, mais qui au détour d'un existence dont l'imbécilité du propos n'avait d'égal que la prétention, est soudain devenu l'étendard branchouille d'un auteurisme de pacotille, festivalier et snobinard, dont il n'a probablement pas mesuré la dimension destructrice. Stéréotype absolu du cinéaste maverick qui, au même titre qu'un David Lynch ou qu'un Tim Burton, a soudain adopté l'image flagorneuse qu'on lui renvoyait, au point de se sentir obligé d'y correspondre, Cronenberg en est arrivé avec Spider à étaler avec une vanité hallucinante la pire psychanalyse de supermarché sans que personne n'ose crier à l'imposture. Du coup, avec un titre aussi pompeux qu'History of Violence, on aurait pu imaginer Cronenberg se prendre de nouveau pour le donneur de leçons favori des démocrates bobos. Monumentale erreur.
Tell me the truth. What are you?
Car non seulement son nouveau film est tout sauf une œuvre prétentieuse qui assène des vérités démago, ce qui caractérisait Existence, mais encore rompt-il avec le cinéma cérébral et hermétique qui définissait déjà certaines de ses œuvres comme Le Festenu ou M. Butterfly, sorti il y a plus de 10 ans. Adaptation libre d'un comics ricain, le film de Cronenberg ne se pose jamais en pamphlet lourdingue sur les affres de la violence, ni en véhicule malin d'une symbolique masturbatoire trop appuyée. Si Cronenberg n'en évite pas certains écueils, comme une imagerie à la limite du cynisme dans la dernière demi-heure du film, incontestablement la plus faible, History of Violence reste avant tout une véritable série B subversive qui joue avec plaisir des codes du genre, qui ose les ruptures de ton ou les rebondissements énormes et dont la mécanique rodée est sans cesse pervertie par la dualité de personnages touchants, à la fois humains, bestiaux et allégoriques. Moins film sur la violence en action qu'œuvre qui l'interpelle comme génitrice des mythes fondateurs américains, à travers ce parcours d'un type banal que la télévision, toujours en quête d'une violence expiatoire, va faire basculer dans le monde de la fiction, le dernier Cronenberg renoue avec ses premiers films de genre, monument d'émotions dérangeantes qui questionnaient le monde en même temps qu'il nous secouait les tripes.
Tom!
Le génie de Vidéodrome est enfin de retour, et ça, ça fait plaisir.
Children in Toronto would go every Saturday to the cinema. And I think I definitely remember Bambi, which was traumatizing, you know, all these Disney movies. Dumbo, also traumatizing, because in each case it was some baby being separated from its mother. And of course, for a child, that's very traumatizing.